Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Parmi les penseurs chrétiens, le philosophe français René Descartes mérite la pleine place. C'est un philosophe connu, on a pu même l'identifier à la France, mais il y a aussi beaucoup de préjugés qui circulent relativement à son œuvre et à sa pensée. Qui était René Descartes? Quelle est cette œuvre? Le premier point par lequel nous pouvons commencer, c'est une manière de présenter son originalité. Pour nous, nous avons des préjugés ou des croyances, et une de ces croyances tient à l'ordre des évidences. Si on demande à quelqu'un si le monde extérieur existe, il ne s'est jamais posé la question, il va de soi qu'il y a le ciel, le soleil, la terre, et qu'il existe, et que toute chose existe lui-même dans ce tout. Descartes renverse cet ordre des évidences, mais il faut voir ce que cela signifie. Cela veut dire d'abord que la recherche de Dieu ne sera plus une recherche qui commencera par la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas en regardant la nature qu'un être humain se demande qui est l'auteur de cette nature. Et alors, c'est par ce cheminement-là que cet homme vient à Dieu et se demande s'il y a un Dieu qui est l'auteur du monde ou un grand horloger, comme on dira plus tard. Descartes nous propose un cheminement tout à fait différent et un cheminement qui renoue d'ailleurs avec l'enseignement de saint Augustin. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher Dieu par la considération de la nature, Descartes cherche plutôt Dieu par la considération de l'âme humaine. Et c'est en rentrant en elle-même que l'âme humaine découvrira en elle-même Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu. C'est ce chemin-là qu'il nous faut examiner aujourd'hui. C'est là ce que je peux appeler un renversement des évidences. L'évidence naïve nous consiste à croire qu'il y a un monde et que nous sommes dans ce monde. Et ensuite, certains se demandent s'il y a un Dieu, et parmi ceux qui se posent cette question, certains affirment qu'il y a un Dieu. Chez Descartes, le mouvement sera tout à fait différent. Nous ne partirons plus de l'évidence du monde et éventuellement de l'évidence que nous sommes, nous, dans ce monde, mais nous partirons du doute, et en doutant de toute chose, y compris de l'existence du monde, en rentrant en nous-mêmes, nous découvrirons en nous-mêmes Dieu. Donc le chemin est tout à fait différent, et c'est là une profonde originalité de Descartes, bien sûr. Alors, nous pouvons lire aujourd'hui les méditations métaphysiques de Descartes en retenant les points principaux. Un point important du commencement tient à la relation entre la foi et la raison. Dans une lettre qui sert de préambule, Descartes montre que deux questions sont décisives ici, en métaphysique, la question de Dieu et la question de l'âme. Or, qu'est-ce qu'il en dit? Il en dit que ces deux questions, de Dieu et de l'âme, font partie des questions principales qui doivent être plutôt démontrées par les raisons de la théologie, pardon, de la philosophie, que de la théologie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce n'est pas du tout une mise à l'écart ou un déni de la théologie, Descartes, au contraire, la reconnaît, mais Descartes prend soin de distinguer les deux ordres, l'ordre de la théologie avec l'ordre de la philosophie. Et ce qu'il montre ici, c'est que la philosophie doit pleinement s'approprier ces deux questions et qu'il appartient donc au philosophe d'examiner la question de Dieu et la question de l'âme. Il y a bien sûr là aussi un écho de la pensée d'Augustin qui écrivait dans les Soliloques que la question première est celle de Dieu et de moi, de Dieu et de l'âme en première personne et de leur relation. Chez Descartes, cela veut donc dire qu'il appartient à la raison humaine de dire quelque chose de Dieu, de dire quelque chose de l'âme et de penser leur relation. Cela n'enlève rien à la révélation, cela n'enlève rien à la religion chrétienne issue de la révélation, instituée par la révélation de Dieu en personne, mais cela veut dire que ce qui est reçu par révélation doit maintenant être pensé par le philosophe. Et c'est en ce sens-là que ces deux questions, de Dieu et de l'âme, et de leur relation bien sûr, sont des questions qui relèvent de la philosophie. Donc par là, Descartes n'établit aucune confusion, mais précisément une distinction, en montrant que c'est lui qui, en tant que philosophe, aborde la question de Dieu et la question de l'âme. Il en résulte que le Dieu auquel nous conduira Descartes dans ses méditations métaphysiques sera le Dieu ou Dieu tel que la raison humaine peut le rencontrer. Et nous retrouverons ce problème. La question sera donc de savoir justement ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons dire de vrai relativement à Dieu, à l'âme et à leur relation. Nous lisons maintenant les méditations métaphysiques. Un des points principaux à noter au commencement, c'est l'idée de la liberté. Là aussi, c'est une des grandes nouveautés de la pensée cartésienne. C'est que la pensée, le travail de la pensée, le chemin de la pensée, est une expérience de la liberté. En effet, chaque être humain en venant au monde reçoit une langue, une parole, des notions, des opinions, et chaque être humain parvenu à la maturité est invité à interroger ce qu'il a reçu et à considérer ce qui est vrai dans ce qu'il a reçu. C'est ce chemin-là que nous retrouverons maintenant chez Descartes. Mais cela veut dire que ce qui caractérise l'esprit humain, c'est la liberté. Comme l'écrit Descartes, l'esprit, en usant de sa propre liberté, fait une expérience tout à fait originale. L'esprit use de sa propre liberté. Descartes pense la liberté en termes d'usage, en se demandant donc quel est le meilleur usage et quel est d'abord le premier usage de la liberté. Et c'est là que nous retrouvons le point étonnant signalé tout à l'heure. Que découvre l'esprit en faisant usage de sa propre liberté? Il découvre qu'il peut douter de toute chose, et il découvre qu'en doutant de toute chose, il peut aller jusqu'à douter de l'existence du monde. Mais c'est précisément par ce cheminement que l'esprit humain découvre que s'il peut douter de tout, il peut douter de tout sauf de lui-même, et c'est par là qu'apparaît, ce qui est une des phrases les plus connues de Descartes, « Je pense, donc je suis, cogito ergo sum » en latin. Mais cette phrase, il faut la resituer dans son contexte et il faut surtout la comprendre pour ne pas lui faire dire n'importe quoi. L'expérience à laquelle nous convie Descartes est bel et bien une expérience de liberté. Liberté spirituelle qui a des conditions et ces conditions sont exposées dans la première méditation. Descartes nous donne un peu la règle du jeu en montrant qu'il y a ici une libre décision, qui est la décision d'examiner ses pensées parce que nous sommes habités par l'idée de la vérité. Celui qui pense est celui qui cherche la vérité, et c'est travailler, habité, mu par l'idée de la vérité qu'il soudain il se met à chercher la vérité. S'il est donc habité par la vérité, il faut qu'il réponde à cette idée, et il y répond par une libre résolution de soi. C'est ainsi que commence la première méditation. « Il me faut donc aujourd'hui, odier, dit le latin, aujourd'hui me vouer tout entier à cette recherche de la vérité. » Et cela suppose plusieurs points. Cela suppose que j'ai libéré mon esprit de tous les soucis. Nous sommes dans la vie quotidienne plus ou moins accablés de soucis ou marqués par des soucis, et je ne peux vaquer à la recherche de la vérité que si j'ai commencé par me libérer de tous les soucis. Il me faut ensuite, deuxième point, me retrouver dans la solitude. Et là, c'est un point plus important qu'il n'y paraît. Cette solitude signifie non seulement que je dois me retirer à l'écart, mais encore que je dois rentrer en moi-même. Mais le premier point, donc, c'est la solitude au sens le plus simple. Et il me faut me procurer un repos à l'abri du souci dans une véritable solitude. Et à ce moment-là, apparaît la libre décision. La décision, c'est que si je me mets à l'écart, je me suis procuré du loisir, scolé en grec, otium en latin, et je peux m'employer maintenant à l'examen de mes anciennes opinions. Et c'est là que Descartes apporte quelque chose d'étonnant, c'est que je ne vais pas seulement procéder à un examen de mes anciennes opinions, mais encore je vais procéder à une destruction de certaines de ses opinions. Détruire généralement toutes mes anciennes opinions avec liberté, comme le dit Descartes. Donc nous retrouvons ici la liberté, la décision de penser, et ce qui en découle, c'est que beaucoup des opinions qui ont été les miennes jusqu'à présent ressortiront en étant détruites. Nous avons ici une remarque à faire avant de continuer la lecture, qui est le fait que ce texte est écrit à la première personne du singulier. Quand nous lisons les méditations, c'est Descartes qui écrit en première personne, et donc il emploie le « je ». Par exemple, à la première méditation, si je lis la première phrase, « Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, etc. » Alors, le lecteur qui lit ces méditations lit un texte qui est écrit à la première personne. Mais nous avons là une grande nouveauté dans l'attitude de Descartes et dans le projet philosophique de Descartes, qui consiste à demander à son lecteur de faire le même exercice à son tour en première personne. Nous avons donc là affaire à un livre tout à fait étonnant et d'une forme nouvelle. C'est un livre qu'il ne faut pas lire à la troisième personne en se disant « Descartes doute de tout, Descartes découvre ceci ou découvre cela ». C'est un livre qu'il faut refaire, réécrire en soi-même et par soi-même à la première personne. C'est un livre qui demande donc de l'exercice, cette mise à l'écart, cette solitude, et ce sérieux de la méditation. C'est un livre qu'il faut écrire en première personne, parce que ce dont il est question, c'est bel et bien de ce que signifie être un je, bel et bien de ce qui signifie en latin le « ego », ce petit mot que nous employons tous les jours sans le penser, sans y penser, et que Descartes nous demande précisément de penser. Nous remarquerons aussi que les méditations sont six, et que Descartes donc, nous propose un chemin en six journées, six méditations qui sont bel et bien six journées. L'idéal serait donc de se retirer à la campagne ou dans un lieu désert, et chaque jour de se livrer à une seule méditation, en enchaînant les méditations de la première à la dernière. Le point capital, c'est bel et bien que chacun refasse pour soi-même cet exercice intellectuel, ou, pour reprendre une formule de Saint-Ignace de Loyola, cet exercice spirituel. Dois-je rappeler que Descartes a été l'élève des jésuites au Collège de la Flèche et qu'il y a des traces de l'enseignement des jésuites dans la doctrine de Descartes. Voilà, tout commence donc bien par cette décision. Je me retire, je me donne du loisir. Je rappelle que le loisir, ce n'est pas du temps pour n'importe quoi. Le loisir, c'est le temps pour la pensée, le temps consacré, le temps libre consacré à la recherche de la vérité. Le décor est planté, je suis seul, je prends la résolution de penser pour chercher la vérité, et maintenant la question se pose de savoir de quelle manière je m'y prendrai. Est-ce que j'attendrai que des pensées surgissent au fur et à mesure de leur surgissement pour les examiner et les critiquer? Je pourrais ainsi faire comme le fera plus tard Gustave Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, plutôt comme le font Bouvard et Pécuchet, qui, par exemple, voulant s'adonner à la philosophie, après le repas, après un bon repas, se retirent dans le jardin et attendent que des pensées leur viennent, que des idées leur viennent, pour les examiner et considérer ce qu'il en est de leur vérité. Vous remarquerez que dans le roman de Flaubert, aucune pensée ne leur vient, ou elle vient en désordre, c'est n'importe quoi. Si je procédais ainsi, il me faudrait un temps indéfini ou illimité pour avoir fait le tour des différentes pensées que j'ai reçus ou qui m'adviennent. Descartes me propose un tout autre chemin, qui est un chemin de méthode, un chemin méthodique, et plutôt que de penser au hasard mes pensées, je penserai avec méthode mes pensées. La méthode consistera à commencer par le plus pauvre, le plus élémentaire, le plus évident en un sens aussi, à savoir tout ce que j'ai senti et tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je sais de toute chose, notamment par mes sens, mes cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher. Voilà. Quel est le premier exercice à faire? Eh bien, le premier exercice à faire consiste à examiner s'il y a du vrai là-dedans, et ce qu'il y a de vrai éventuellement là-dedans. Une règle importante à établir ici, c'est l'idée que je cherche quelque chose de vrai, et que ce vrai m'apparaîtra sous les traits de l'évident et sous les traits de l'indéniable. Je cherche quelque chose qui sera indéniable et indubitable, c'est donc quelque chose qui aura échappé au doute, et c'est bel et bien par le doute qu'il faut commencer. Descartes renoue ainsi avec ce qui s'est appelé « skepsis » chez les Grecs, donc là, le doute, est ici un doute radical, un examen de toute chose. Mon doute commencera donc par tout ce que mes cinq sens m'ont livré, m'ont fourni, tout ce que j'ai appris par mes sens. Et comme je cherche de l'indubitable, si je m'aperçois qu'en eux, il y a du douteux, je pourrais révoquer en doute, justement, le sensible. C'est bien ce que me permet le premier point de l'exercice. Parmi les choses que je peux révoquer en doute, il y a tout d'abord tout ce qui m'a été fourni par les sens. Et je peux donc révoquer en doute tout le domaine du sensible. Je ne considérerai pas ici tous les détails, bien sûr, de la démarche cartésienne. Je voudrais retenir simplement les points les plus importants. Descartes introduit un peu plus loin un autre argument tout à fait étonnant et nouveau qui va plus loin que le scepticisme antique. Le sceptique antique considérait ses sens, les données des sens, et en douter. Par exemple, Cicéron dans les Académiques nous rappelle que certains sont allés jusqu'à douter de la couleur de la neige, et que si je demande à quelqu'un « la neige est-elle, quelle est la couleur de la neige ?», la réponse la plus commune sera « la neige est blanche ». Et Cicéron va jusqu'à dire « on peut soutenir que la neige est noire », par exemple. Donc Descartes reprend bien tout ce travail, et ici nous voyons que d'un coup, il réfute ou plutôt il révoque en doute tout le domaine du sensible, ce n'est pas là qu'il y aura de l'indubitable. Mais il avance un nouvel argument, tout à fait nouveau, c'est l'argument du rêve. La nuit, il m'arrive de rêver, et chaque nuit nous rêvons, que nous voyons des montagnes, l'océan, des personnes, des lieux, des maisons, et cependant, tout cela, ce sont des fictions inhérentes à nos songes. Que permet cet argument du rêve? Eh bien, il me permet de révoquer en doute l'évidence naïve. Je crois, ou je peux croire que je suis éveillé, que je suis présent à moi-même en étant présent au monde, mais je m'aperçois ici, par cet argument du rêve, que cela peut être révoqué en doute. Il se peut qu'il n'y ait pas de monde hors de moi.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Un physicien auprès de la cheminée regarde le feu et se demande quelle est la nature du feu. Descartes, en tant que physicien, fait des hypothèses sur la nature du feu. Mais la démarche de Descartes maintenant, ou la démarche qui est la mienne maintenant, n'est pas une démarche de physicien se demandant ce qu'est le feu. C'est une démarche de métaphysicien. Et nous pouvons ici faire une remarque sur la différence entre les deux. Nous nous rappelons que Descartes a été un grand savant, un des plus grands savants de l'histoire des sciences. Nous nous rappelons aussi qu'une des grandes découvertes un peu antérieures à lui, c'est celle de Copernic, c'est celle selon laquelle la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais qu'elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Descartes est un des grands savants de son temps avec Galilée, et En tant que savant, il a apporté sa pierre à l'édifice des sciences. En même temps, Descartes a fait davantage. Il a été en même temps quelqu'un qui a cherché l'essence de la science moderne, quelqu'un qui s'est interrogé sur ce que la science moderne a de nouveau par rapport à la science antique. Et il a pour ce faire composé un petit traité qu'il a laissé inachevé et non publié, qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit ». Voilà donc un Descartes d'abord savant, ensuite un Descartes qui pense la science en se demandant ce qu'a de neuf cette science qu'il établit en même temps que Galilée. Mais enfin, nous avons en Descartes quelque chose d'autre encore qui est un métaphysicien. Le savant cherche à connaître la nature du feu. Le savant réfléchissant sur la science, donc le philosophe réfléchissant sur la science, se demande ce qu'est la science. Maintenant, le métaphysicien, c'est tout autre chose. La métaphysique, depuis la fondation par les Grecs, c'est la recherche des premiers principes. On pourrait dire aussi des premiers principes et des premières causes, ou bien au singulier, la recherche du premier principe, de l'unique nécessaire. Et c'est là que Descartes est grand parce qu'il parcourt les trois niveaux que je viens d'indiquer. Il est un grand savant, il est quelqu'un qui comprend la nature de cette science nouvelle, et enfin, il est un grand métaphysicien. Il est quelqu'un qui se demande ce qu'est la vérité, qui cherche la vérité, et qui propose des méditations métaphysiques tout à fait originales. Un homme au coin du feu, s'il est physicien, se demande ce qu'est le feu. Descartes, maintenant, dans la première méditation métaphysique, entreprend une toute autre démarche. Ce qu'il cherche, c'est autre chose. Ce qu'il cherche, c'est « suis-je en train de dormir, et en train de rêver que je suis auprès du feu, ou bien suis-je auprès du feu ?» L'évidence naïve, c'est que je suis en ce moment assis au coin du feu devant ma cheminée et je lis Descartes. Comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et que ce corps-ci soient à moi ? L'évidence, c'est que je suis assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains. Or, c'est cette évidence-là qui maintenant est mise en difficulté. C'est cette évidence qui tombe. Non seulement il se peut que les choses ne soient pas telles que je les sens, parce que mes sens sont parfois trompeurs, mais encore il se peut qu'il n'y ait rien en dehors de moi de ce que mes sens me laissent croire, me donnent. C'est donc l'argument du rêve qui permet à Descartes de douter de l'existence du monde tout entier. Il y a bien là quelque chose de nouveau, quelque chose de profond, quelque chose qui ouvre aussi une nouvelle époque de la philosophie, c'est cette hypothèse ou ce doute qui porte sur l'existence du monde hors de moi. Nous sommes ici dans la ténèbre, nous n'avons plus l'évidence qu'il y a le monde et que nous sommes dans ce monde, mais nous avons un homme qui est rentré en soi-même, qui examine ses pensées, qui doute de tout et qui découvre qu'il peut douter de l'existence du monde hors de soi. Je l'ai dit, la philosophie de Descartes repose sur la liberté, est un exercice spirituel de la liberté. C'est pourquoi, dans la première méditation, Descartes continue en faisant une hypothèse. C'est l'hypothèse que je suis endormi. Supposons, je supposerai dorénavant que je suis endormi. Et je continuerai mon doute en doutant de toute chose. Jusqu'à présent, j'ai douté de ce qui m'apparaît. Puis j'ai douté de l'existence du monde hors de moi. Maintenant, je peux douter encore d'autre chose, c'est douter de la raison elle-même. Et là aussi, Descartes inaugure quelque chose de grand, c'est que si le sceptique antique doutait des données sensibles, avec Descartes, le doute, pour la première fois sans doute, porte sur la raison elle-même. Le philosophe doute de la raison elle-même, c'est-à-dire ici de la raison telle que le savant en fait usage. Il est évident que 2 plus 2 sont 4, nous avons des évidences. Et on pourrait en déduire que, puisque nous cherchons quelque chose d'évident, quelque chose d'indubitable, en trouvant que 2 plus 2 sont 4, nous avons trouvé. Mais Descartes propose un nouvel argument tout à fait étonnant, qui est celui selon lequel je peux douter de mes connaissances mathématiques elles-mêmes. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, tant que je ne connaîtrai pas l'origine de mon esprit, je ne pourrai rien tenir pour vrai. Nous voyons donc ici le doute qui nous demande de poser une question tout à fait originale, qui est la question de savoir d'où est-ce que l'esprit humain procède ? D'où vient l'esprit humain ? Quelle est l'origine de l'esprit humain. Et cela est bien une question métaphysique. Nous voyons donc comment Descartes chemine. Il est physicien, il s'intéresse à la nature du feu, et maintenant il est métaphysicien, il se demande si le monde hors de soi existe, et il est métaphysicien en s'apercevant qu'il ne peut pas naïvement se confier aux facultés de l'âme, mais qu'il lui faut se demander d'où vient l'esprit humain. Et c'est cette question qui le conduira à la découverte de l'existence de Dieu.